Merci Christophe. On va pas beaucoup, mais Céline va passer un autre exercice consiste à analyser, à étudier le phénomène en bibliothèque des décrocheurs à partir d'études de cas qui ont été faites, comme c'est indiqué là-dessus, à Limoges et à Saint-Étienne. J'imagine que ça n'a rien à voir avec les changements municipaux, tout ça. Non, rien du tout. Cette enquête qui est à la fois, mais je la laisse dire bien entendu, un peu triste d'une certaine façon, mais qui rend aussi un optimisme en conclusion, était vraiment un travail remarquable. Voilà. À vous.
Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, le thème de mon intervention porte sur les décrocheurs, le phénomène de non-réinscription en bibliothèque à partir de deux terrains d'enquête, les bibliothèques de Limoges et les bibliothèques de Saint-Étienne. Donc avant de commencer, de vous présenter un petit peu quels étaient les objectifs du travail que j'ai mené, je voulais faire quelques mots en préambule. D'abord, le terme décrocheur. C'est un terme qui a été proposé par Daniel Le Goff, directeur de la bibliothèque de Limoges. C'est un terme qui a beaucoup fait débat quand j'ai appelé les gens au téléphone et que j'ai discuté avec eux à propos de mon sujet d'étude. Il y a plein de gens qui ne se retrouvaient pas dans ce terme de décrocheur. Donc c'est un terme qui est emprunté au monde scolaire, qui désigne dans ce cadre-là les élèves qui sont en rupture avec l'institution et qui du coup ne fréquentent plus ou ont des difficultés en termes d'assiduité. Et donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais on ne peut pas faire de parallèle avec le monde des bibliothèques parce que la fréquentation de la bibliothèque, elle n'est pas obligatoire. Donc du coup, la similitude ne peut pas fonctionner. Pourtant, en fouillant un petit peu sur la notion de décrochage scolaire, je suis tombée sur des éléments qui m'ont plu et que j'ai trouvé intéressant d'appliquer au phénomène de non-réinscription en bibliothèque, notamment les enseignants de l'Académie de Rouen qui mettaient dans la bouche d'un jeune décrocheur qui s'adressait à l'institution scolaire les paroles suivantes « Je te quitte car tu n'as su ni me plaire ni me retenir ». Et cette formule semblait plutôt bien convenir en fait à la problématique qui était celle du travail qu'on a mené avec M. Le Goff et M. Marin. Cette formule effectivement rappelle un petit peu ce que Hirschman appelle l'exit et dont la non-réinscription est peut-être une des formes. Ensuite, pourquoi Limoges et pourquoi Saint-Étienne ? Pour des raisons très prosaïques. C'est Daniel Le Goff qui a proposé le sujet d'étude parce qu'il avait constaté que dans sa bibliothèque, il avait l'impression qui n'était pas du tout quantifiée à l'époque. Il avait l'impression qu'il y avait un phénomène de décrochage assez important. Et justement, il était intéressé pour essayer de le quantifier, de l'analyser, essayer de le comprendre. Et pour que le travail soit valide et un petit peu plus intéressant, il a proposé à d'autres bibliothèques de participer aussi à ce travail-là. Alors, on n'a pas pu travailler avec toutes les bibliothèques qui étaient intéressées par la question, parce que ça faisait beaucoup. Donc, on a retenu la bibliothèque de Saint-Étienne, parce que en termes de population à desservir, on était sur des schémas qui paraissaient suffisamment proches pour qu'on puisse travailler sur ces deux éléments-là. Donc voilà, j'ai presque fini mes remarques en préambule, j'en ai encore quelques-unes. Ce thème-là, le thème du décrochage en bibliothèque, est un sujet très peu traité à la marge par les études qui portent sur la fréquentation des bibliothèques et sur les études de public, parce que le public de décrocheur, il se situe juste à la lisière entre le public et le non-public. Et ce n'est pas toujours évident, en fait, de trouver des choses qui portent sur le décrochage. Et puis, c'est une hypothèse à la base qui peut être un peu crispante. C'est-à-dire que l'hypothèse initiale consiste à imaginer que le décrochage est le signe d'une insatisfaction par rapport aux services rendus par la bibliothèque à ses usagers. On ne s'y réinscrit pas parce que finalement, on n'y trouve pas ce qu'on vient y chercher. Donc on est éventuellement déçu même par la bibliothèque. Et donc dans un contexte de plus en plus contraint où on demande des évaluations, c'était aussi des choses qui pouvaient être un petit peu crispantes pour les équipes. Je tiens d'ailleurs à dire à ce propos-là que aussi bien à Limoges qu'à Saint-Étienne, les équipes ont parfaitement joué le jeu avec énormément d'ouverture et de transparence, ce qui n'est pas forcément toujours le cas et toujours évident. Et donc il y avait vraiment une envie de... La curiosité, en fait, était plus forte que l'angoisse que pouvaient générer les résultats de cette enquête. Donc, c'était vraiment intéressant de travailler avec ces équipes-là. Et donc, comme c'est un sujet peu traité, il y a aussi peu de données sur la question. Donc, il a fallu construire tout un tas de choses, puisqu'il n'y a pas de moyenne nationale du décrochage en bibliothèque, il n'y a pas de statistiques particulières, il n'y a même pas de définition très précise. Donc, pour mener cette enquête, on a été obligé un petit peu de bricoler. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les bricolages et les savants calculs qu'on a pu essayer de faire pour essayer de voir un petit peu quelle réalité recouvrait le décrochage et qui étaient les décrocheurs dans les bibliothèques. Voilà. Donc les objectifs de l'enquête qu'on a menée à Limoges et à Saint-Étienne, ils étaient de trois ordres. Il y avait d'abord, effectivement, d'abord mesurer le phénomène. Combien est-ce qu'ils sont, ces décrocheurs? Combien ça représente par rapport au public global de la bibliothèque? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Donc c'est en ça que je vous dis, on a un petit peu bricolé des choses pour essayer d'établir un cadre de référence. Ensuite, on a essayé d'analyser pour comprendre qui sont les décrocheurs, pourquoi est-ce qu'ils décrochent, est-ce qu'il y a des facteurs favorables, entre guillemets, au décrochage. Et enfin, raccrocher, c'est quelles propositions d'action on peut mettre en place, qu'est-ce que peut faire la bibliothèque pour essayer d'enrayer ce phénomène. Est-ce que c'est un phénomène normal? Est-ce que le décrochage fait partie de la vie du public de la bibliothèque? Est-ce qu'on doit essayer de lutter contre ou pas? Enfin voilà, c'est autant d'éléments qui font partie des propositions qui ont été proposées par les personnes qu'on a pu rencontrer. Je vais aussi vous parler un petit peu de la méthode utilisée, puisque comme je vous le disais, on n'a pas beaucoup d'éléments de référence en la matière, donc il a fallu construire un certain nombre de choses. Donc les travaux dont je vous parlais jusqu'à présent, c'est-à-dire les travaux sur la question des publics ou des non-publics, elles sont soit assez descriptives, donc avec des quantitatifs, quoi. Enfin, c'est des analyses quantitatives, soit un petit peu plus analytiques avec des entretiens, un échantillon de personnes et donc une approche un petit peu plus qualitative avec des entretiens plus ou moins approfondis. Ici, la méthode qu'on a essayé de mettre en place, on a essayé de mélanger plusieurs approches pour essayer d'avoir une vision la plus complète possible. En toute modestie, hein, cependant, il y aura sans doute bien d'autres études à mener sur le décrochage en bibliothèque. Donc la première étape, ça a été, comme je vous le disais, de construire un cadre de référence national à partir des données qui sont collectées par l'Observatoire de la lecture publique et le SLL, ce fameux questionnaire que vous vous appliquez tous et toutes à remplir avec assiduité tous les ans, qui vous fait très plaisir d'ailleurs, je crois. Eh bien, ça sert, en tout cas, à tous les étudiants de l'ENSIB. On est très, très, très... On vous remercie beaucoup de remplir ce questionnaire. Ça nous sert beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi. Donc, les données que j'ai pu exploiter sont des données 2011, puisque à l'époque où j'ai commencé ce travail-là, les données 2012 n'étaient pas consolidées. Donc, je n'ai pas pu m'appuyer sur les données 2012. Donc, ce sont les données 2011 sur lesquelles je m'appuie. L'objectif, c'était vraiment... à l'échelle nationale, en faisant des comparaisons avec des équipements de même taille ou avec des missions un petit peu similaires, c'était d'essayer de voir s'il y avait une espèce de moyenne du décrochage, une espèce de taux acceptable, pour voir comment se situaient les bibliothèques de Limoges et les bibliothèques de Saint-Étienne. Cela dit, tout de suite, je prends des précautions en vous disant que les données... qu'on a réussi à collecter, qu'on a essayé de bricoler, comme je vous le disais, elles sont loin d'être fiables à 100%, puisque pour vous, je vais vous expliquer, je vais tout vous dévoiler sur le taux de décrochage de ces bibliothèques-là. Je vais vous expliquer comment on l'a calculé, et c'est de la déduction d'une définition qui n'est pas comprise par tout le monde de la même manière. Donc voilà. Donc déjà, c'est un petit peu, c'est pas complètement satisfaisant. Mais comme cette question, encore une fois, elle est pour l'instant pas beaucoup traitée, c'est compliqué d'avoir une compréhension harmonisée et une définition standardisée de ce que c'est que le décrochage. Donc le nombre de décrochages, il est entendu comme le nombre d'usagers inactifs encore comptabilisés dans les bases DSIGB des bibliothèques. C'est-à-dire que, en fait, pour vous faire un petit retour vers le passé, dans le questionnaire du SLL, on vous demande le nombre d'inscrits total et le nombre d'inscrits actifs. Nombre d'inscrits actifs, il y a un petit astérisque qui vous renvoie une définition très précise, c'est le nombre d'inscrits qui ont emprunté au cours des 12 derniers mois au moins un document et qui sont à jour de leur cotisation, de leur adhésion. Donc par déduction, le nombre d'usagers inactifs, c'est les gens qui n'ont pas emprunté au cours de l'année passée et qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Et donc, en fait, on a supposé que le public des décrocheurs se situait dans cette masse d'usagers inactifs. Donc, les taux de décrocheurs qu'on a calculés, c'est à partir de ce... On a fait une soustraction, en fait. On a pris le nombre total d'inscrits moins le nombre d'usagers actifs, et on a eu à peu près un public qu'on a estimé comme étant potentiellement décrocheur. Voilà. Et cette approche-là... Je vous disais que ce n'est pas complètement satisfaisant d'un point de vue purement scientifique, aussi parce que ça ne rend pas du tout compte d'un usage de plus en plus fréquent à la bibliothèque, qui est l'usage familial d'une carte. C'est-à-dire on prend une seule carte et puis on est très nombreux à s'en servir. Et du coup, ce n'est pas comptabilisé, donc il y a une carte, donc on ne compte qu'un inscrit, mais en fait on est 4 ou 5 à s'en servir. Donc si on voulait faire un vrai ratio, ça relativiserait quand même un peu les choses, mais c'est des choses, les données sur lesquelles on s'est basé, c'est les données donc du SLL qui sont celles déclarées par les bibliothèques, et on n'est pas encore suffisamment fin dans l'analyse de ces données-là pour aller plus loin en termes de définition. Donc ça, c'était pour essayer d'avoir un petit cadre national et un cadre commun de référence. Ensuite, à partir de ce... Donc ça, c'était avec les données SLL. On est descendu ensuite à un échelon plus local, donc en se basant sur les données des SIGB, des bibliothèques de Limoges et de Saint-Étienne. On a essayé de cibler les publics identifiés comme décrocheurs dans les bases des deux bibliothèques. Et on a envoyé des questionnaires à ces personnes décrocheuses. Là, l'idée, c'était de se faire un portrait, entre guillemets, de à quoi ressemblaient les décrocheurs à Limoges et à quoi ressemblaient les décrocheurs à Saint-Étienne. Et de regarder s'il y avait certains critères qui permettaient de déduire ou de voir s'il y avait des facteurs plutôt favorables au décrochage ou pas, et si, oui ou non, on pouvait agir sur certains de ces facteurs. Alors, à ce niveau-là de notre travail d'enquête, on s'est aussi dit que ça serait intéressant de rapprocher les personnes décrocheuses des personnes nouvellement inscrites. Donc on a mis en parallèle aussi, on a fait un questionnaire pour les décrocheurs et un questionnaire pour les nouveaux inscrits. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? D'abord parce que j'étais très angoissée de ne pas avoir du tout de réponse à mes questionnaires, puisque le principe du décrocheur, c'est qu'a priori, il a moins d'intérêt, il a un intérêt moindre, un intérêt qui diminue pour la bibliothèque, donc ça ne va pas forcément l'intéresser de répondre à un questionnaire sur la bibliothèque. Donc je craignais un peu d'avoir un taux de réponse très faible. Donc c'était aussi une manière de s'assurer un taux de réponse un peu plus important, et puis de rapprocher les décrocheurs des ce que moi j'ai appelé des primo-arrivants, c'est-à-dire des personnes qui s'inscrivent, qui sont nouveaux à la bibliothèque. Ça permettait d'essayer de vérifier l'hypothèse que la déception des décrocheurs, que les attentes des nouveaux inscrits correspondaient aux déceptions des décrocheurs. Donc voilà, c'était pour toutes ces raisons, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer un questionnaire aux décrocheurs et un questionnaire aux primo-arrivants. Donc voilà, je vous ai mis un petit tableau pour que vous ayez une idée des questionnaires du coup qu'on a traités, ça en fait 723 en tout. Donc c'est pas mal. Finalement, on a eu des réponses et on a pu travailler. Et enfin, la dernière étape, puisque je vous disais qu'on a mêlé un peu les approches, à l'issue, enfin, la dernière question des questionnaires, aussi bien pour les décrocheurs que pour les primo-arrivants, on leur demandait s'ils acceptaient d'être contactés pour un entretien de groupe, un focus group. Donc, l'objectif de réunir ces gens ensemble et de les faire parler, c'était aussi pour essayer de comprendre et d'aller plus loin dans l'analyse des raisons du décrochage, collecter des propositions et des attentes d'usagers pour essayer de voir ce que la bibliothèque pouvait ou ne pouvait pas faire pour essayer de raccrocher ces gens. Donc, des focus group, on en a organisé 4. Un pour les décrocheurs à Limoges, un pour les primo-arrivants à Limoges, un pour les décrocheurs à Saint-Étienne, un pour les primo-arrivants à Saint-Étienne. Donc vous avez la répartition, là aussi je vous ai fait un petit tableau, ça fait 21 personnes en tout. Ça a aussi été possible, ces focus groupes-là, parce qu'on proposait aux gens qui participaient de les dédommager de du temps passé à me rencontrer et puis à discuter avec moi et puis avec les responsables des bibliothèques de la bibliothèque et puis de leur intérêt pour la bibliothèque. Donc à Limoges, il avait été décidé qu'on offrait aux personnes qui participaient, dans un groupe ou dans l'autre, 2 places de cinéma par personne. Et à Saint-Étienne, ils avaient, je crois, un chèque cadeau à la FNAC. Donc ça a peut-être aussi contribué au fait qu'on ait quand même des gens qui sont venus participer à nos focus group. Voilà, donc une fois que j'ai posé un peu tout ça, je vais vous donner des tableaux. Donc ça, c'est les premiers tableaux dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais de cadre de référence national. Donc la première partie du tableau, c'est pour essayer de fournir un cadre à Limoges. Donc j'ai pris les agglomérations de toutes les BMVR avec des données voilà, pour essayer de voir un peu comment est-ce que la bibliothèque de Limoges se situait par rapport aux autres. Voilà. Et à Saint-Étienne, j'ai aussi pris les agglomérations, les intercos de villes ou de communautés où il y avait à peu près, en termes de population à desservir, bon an, mal an, des masses à peu près, enfin des volumes à peu près identiques. Voilà, et donc on arrive à nos fameux taux de décrochage. Donc si on se fie malgré tout à ces chiffres qui, comme je vous le disais, ne sont pas complètement satisfaisants, finalement la part de décrocheurs à Limoges, alors que Daniel Le Goff semblait inquiet du taux de décrochage qu'il ressentait sur ses équipements, on est en dessous de la moyenne des BMVR, puisqu'on a un taux moyen de décrochage dans les BMVR qui est à 32%. À Limoges, on a 29%. Et sur l'ensemble des équipements qui ont été retenus pour cet échantillon-là, la part elle est à 23,6% de taux de décrochage. Et à Saint-Étienne, on a 25% à peu près de décrochage. Donc, c'est pas si catastrophique que ça. N'empêche, c'est quand même des taux qui sont importants. Ça fait un quart ou parfois même un tiers des inscrits. Mais bon, là encore, je tiens vraiment à redire que ces chiffres-là, c'est du bricolage et on n'a pas du tout d'informations nationales. Moi, j'avais appelé à plusieurs reprises l'IGB pour leur demander s'il y avait des études autour de ce sujet-là. On m'a confirmé qu'il n'y avait ni études ni travaux qui permettaient de valider des taux ou des moyennes qui seraient acceptables. Les professionnels interrogés m'ont cependant avoué, je ne sais pas si on peut dire avoué, mais en tout cas, eux estimaient qu'il y avait un espèce de taux de volatilité normal qu'ils situaient, eux, à 20%. Alors, c'est un taux qui est là aussi complètement de l'ordre du ressenti. Il n'y a aucune étude qui valide ou qui invalide ce taux-là, mais eux disaient ouais, à 20%, c'est à peu près normal sur le fonctionnement normal d'une bibliothèque, d'avoir 20% de gens qui vont, qui viennent. C'est un taux qui leur paraissait à peu près bon. Alors c'est aussi un chiffre qu'il faut replacer dans un contexte général d'érosion des inscrits à la bibliothèque, puisque enfin voilà, il y a moins de nouveaux inscrits que de décrocheurs, donc à chaque fois on perd un peu des usagers de la bibliothèque. Donc ensuite, les profils des décrocheurs. Donc le premier tableau, c'est pour Limoges, et vous aurez le même dans deux minutes pour Saint-Étienne. Donc on a retenu un certain nombre d'éléments dans le profil des décrocheurs. Bon, d'abord l'âge, en faisant l'hypothèse que peut-être le décrochage correspondait à un moment dans la vie, dans le parcours des lecteurs, des fréquentants la bibliothèque. Donc la question, c'était de se dire quel âge en particulier, sachant qu'on a un petit peu mis de côté pour cette enquête les jeunes, puisque les pratiques des jeunes ont été étudiées à d'autres moments et par d'autres gens, notamment les ados. Enfin voilà, c'était des choses un petit peu à part. Puis la question de la fréquentation des publics jeunes, c'est aussi un public qui subit beaucoup de prescriptions familiales. Donc voilà, on s'est plutôt intéressé aux autres tranches d'âge que les jeunes. Il y avait ensuite le sexe, sachant qu'avec une hypothèse initiale là aussi, où les hommes étant en moyenne un peu moins consommateurs de biens culturels de biens et de services culturels que les femmes, voir s'ils sont un petit plus ou pas plus décrocheurs que les femmes. Il y avait ensuite le lieu de résidence. Là, l'hypothèse qu'on souhaitait valider à travers ce facteur-là, c'était de savoir si la bibliothèque était encore un lieu de proximité ou pas, et si la distance était discriminante par rapport à la fréquentation de la bibliothèque. Et enfin, les CSP, sachant que l'idée qu'on avait au départ, c'était de voir si les CSP intermédiaires décrochent plus que les autres en raison d'une moindre proximité avec la culture légitime que proposerait la bibliothèque. C'est une hypothèse qu'on n'a pas réussi à valider complètement dans le cadre de cette enquête-là, parce que il nous a manqué et du temps et des données. Alors, à partir de ces éléments-là, on a d'autres hypothèses qui sont venues se greffer aussi. Quand on avait des abonnements différenciés, est-ce que le type d'abonnement était plus ou moins facteur de décrochage ou pas? La taille de la bibliothèque, est-ce qu'on décroche plus facilement de la grosse bibliothèque centrale ou plus facilement de la petite bibliothèque de quartier? C'est autant d'éléments en fait qu'on a essayé de prendre en compte. Donc aussi bien à Limoges qu'à Saint-Étienne, les décrocheurs, c'est plutôt des hommes, mais pas de manière complètement écrasante. Ça concerne toutes les catégories d'âge. C'est plutôt des CSP intermédiaires et c'est plutôt des personnes qui résident en centre-ville. Enfin, je crois. Oui, plutôt. Donc, si on essaye, le nouvel inscrit, le profil du nouvel inscrit, qui est là aussi commun à quelques nuances près entre Limoges et Saint-Étienne, le nouvel inscrit, c'est plutôt des femmes, plutôt des catégories jeunes, toutes ces CSP confondues, avec, on note quand même l'absence des ouvriers, des agriculteurs et une sous-représentation des artisans commerçants, qui est... c'est des choses qui vont être confirmées aussi par les focus groups qu'on a pu faire. Et ce qu'il y a là-dessous, c'est une vraie question d'accessibilité de la bibliothèque. C'est plutôt des gens aussi qui résident en centre-ville et c'est plutôt des gens qui fréquentent la bibliothèque centrale, plus que les annexes ou les bibliothèques de quartier. Donc pour ce qui est je vais vous montrer aussi Saint-Étienne quand même. Voilà. La question de l'abonnement, elle est présente à Saint-Étienne, elle ne l'est pas à Limoges, puisqu'à Limoges, l'adhésion à la bibliothèque est complètement gratuite. Voilà. Et à Saint-Étienne, il y a des abonnements payants, et puis des abonnements... Enfin, il y a une politique aussi de gratuité pour certains types de publics. Alors, pour ce qui est du facteur âge... On se rend compte, comme je le disais tout à l'heure, que toutes les catégories d'âge sont touchées par le phénomène du décrochage, avec les tranches d'âge actives qui correspondent à la vie active des individus. Ces tranches d'âge-là sont plus décrocheuses que les autres. Donc c'est ce que je disais, c'est des choses qui vont être confirmées dans les entretiens et dans les focus groups. Ça tient à l'accessibilité de la bibliothèque, qui n'est pas ouverte aux heures où ces populations-là seraient disponibles pour fréquenter la bibliothèque. Il y a même des gens qui ont été assez francs et sincères au moment des entretiens, enfin des focus group, des gens qui nous ont dit « elle n'est jamais ouverte, la bibliothèque ». Si vous croyez qu'il y a des gens qui peuvent fréquenter une bibliothèque qui n'est pas ouverte entre midi et deux, bah, il faudra m'en montrer. Enfin, voilà, des choses. Hein. Les focus group ont vraiment été des moments et des temps de discussion et de compréhension des attentes des gens qui étaient assez... assez intéressante et assez sympa, même si là, je ne vous donne pas forcément les parties les plus sympas, mais c'était plutôt intéressant. Je reviens aussi encore quelques instants sur le facteur genre. On disait que les hommes étaient a priori un petit peu plus décrocheurs que les femmes. Et je rebondis sur ce qu'on disait ce matin aussi à propos de... Voilà, est-ce que ça vient du fait qu'il y a plus d'équipes, de personnel féminin en bibliothèque ou pas? Il y a une étude de la BDP de la Loire qui a été faite au départ sur le personnel bénévole des bibliothèques dans le département et qui montre que, en tout cas dans les cas étudiés par cette étude menée par des étudiants donc, à la BDP 42, les bénévoles étant majoritairement des femmes, il y a une fréquentation du public plus féminin. Et donc vraiment la conclusion de l'enquête, c'était de dire on attire ses semblables. Et du coup, ça peut aussi expliquer qu'il y ait... Et ben peut-être moins de choses proposées pour les hommes en bibliothèque. Et ça pose la question, et c'est aussi une question qui est posée par l'étude de la bibliothèque départementale de la Loire, de comment est-ce qu'on fait pour complètement objectiver les pratiques professionnelles et faire en sorte de vraiment s'adresser à tout le monde et pas que qu'à ses pairs. Donc c'était assez intéressant. Après, ça reste des pistes d'explication, c'est pas gravé dans le marbre, et voilà. Pour ce qui est du lieu d'habitation, donc là, on a bien validé l'hypothèse selon laquelle la bibliothèque reste un équipement de proximité. Plus on habite loin, moins on fréquente la bibliothèque et plus facilement on décroche, puisque la fréquentation de la bibliothèque signifie un effort. Et donc, on va le voir un petit peu plus loin. Quand la bibliothèque est vraiment inscrite dans le paysage urbain et dans les transports en commun et qu'il y a des facilités pour y accéder, ben c'est un petit peu compensé. Mais par contre, c'est aussi quelque chose que les gens mettent très facilement et très rapidement en avant quand ils expliquent les raisons de leur décrochage en disant « on ne peut pas se garer autour de la bibliothèque, c'est impossible, vous ne vous rendez pas compte, tous les parkings sont payants, il n'y a jamais de place autour, les transports en commun, c'est complètement galère ». Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là aussi qui montre bien que l'implantation de la bibliothèque et la distance entre la bibliothèque et le domicile est un facteur qui peut expliquer le décrochage. Les CSP, les CSP intermédiaires ont été les grandes bénéficiaires des bibliothèques et les plus représentées, et longtemps les plus représentées dans le public qui fréquentait les bibliothèques. Elles s'y retrouvent a priori moins qu'avant. Mais l'hypothèse d'une inadéquation des contenus proposés par la bibliothèque reste à vérifier parce qu'encore une fois, on n'a pas été assez loin dans les questionnaires et dans l'exploitation des réponses qui nous avaient été fournies pour valider complètement cette hypothèse-là. On a aussi la question du lieu de fréquentation. Est-ce que les décrocheurs fréquentent plus la bibliothèque centrale, donc la plus grande, celle qui propose le plus de collections a priori? Ou au contraire, est-ce qu'elle déserte plutôt les bibliothèques de quartier? On s'est aperçu, et à Limoges et à Saint-Étienne, que c'est les gros équipements, souvent centraux, qui subissaient le plus fortement de décrochage. C'est aussi quelque chose qui va être un petit peu confirmé dans les focus group. On a des gens qui nous ont dit, quand je vais dans la bibliothèque à côté de chez moi, donc la petite bibliothèque de quartier, les gens me connaissent. C'est pas « bonjour adhérent numéro 728 420 », c'est « bonjour madame Ducroux, est-ce que vous avez aimé le dernier livre ?» Ah ben si vous avez... Voilà, il y a une relation, une connivence, on n'est pas qu'un numéro en fait, qui fait que du coup les gens préfèrent se rendre à la bibliothèque à côté de chez eux plutôt que d'aller à la bibliothèque centrale où ils ont plus l'impression d'être noyés dans la masse. Enfin c'est... En tout cas c'est le discours et c'est la déclaration de certaines personnes qu'on a rencontrées lors des focus group, mais c'est sans doute pas une explication valable universellement. Donc, dans les questionnaires, on leur avait demandé quelles étaient les raisons du décrochage et quelles étaient les raisons de leur inscription à la bibliothèque, mais on va d'abord s'intéresser aux raisons du décrochage, sachant qu'on avait fait une liste assez longue de propositions et qu'on a essayé après de faire une typologie de ces raisons-là. Donc on arrive à 41% de raisons exogènes. Ce qu'on a appelé les raisons exogènes, c'est les raisons extérieures à la bibliothèque en tant qu'institution, sur lesquelles finalement la bibliothèque a peu de prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai déménagé, donc la bibliothèque, elle ne peut pas suivre tous les gens qui l'ont à un moment fréquenté. C'est compliqué ou c'est cher de se garer à proximité de la bibliothèque. Là aussi, la bibliothèque, elle n'a pas forcément beaucoup de prise sur ces aspects-là. Il n'y a pas de transport pour venir à la bibliothèque, c'est trop loin de chez moi, je lis trop peu. Voilà, c'est des choses sur lesquelles... c'est autant de raisons qu'on a qualifiées d'exogènes. Ensuite, on a des raisons qu'on a appelées concurrentes. Donc là, on a presque 10% de gens qui nous ont dit « Finalement, je préfère acheter mes livres, donc je vais moins à la bibliothèque. Finalement, quand j'ai besoin de chercher quelque chose, je vais sur Internet, j'ai pas besoin, moins besoin d'aller à la bibliothèque. Je suis inscrite dans une autre bibliothèque, donc voilà. » Ça, notamment à Limoges, il y a un certain nombre de bibliothèques... Enfin, à Limoges, il y avait des gens qui venaient de très loin pour fréquenter la bibliothèque du centre-ville. Et puis, il y a d'autres bibliothèques qui sont ouvertes aux environs, notamment une bibliothèque à Brive. Et du coup, en termes de fréquentation, les gens qui, à un moment, faisaient le déplacement jusqu'à Limoges pour aller à la bibliothèque, finalement, voilà, se sont reportés sur d'autres bibliothèques moins loin. J'imagine que c'était moins loin de chez eux. Donc, c'est autant d'effets concurrence qui peuvent expliquer un petit peu, dans une certaine partie en tout cas, le décrochage de la bibliothèque. Ensuite, on a ce qu'on a appelé le décrochage par inadvertance. Donc ça, c'est toutes les raisons par défaut. Je ne savais pas qu'il fallait que je renouvelle, je ne savais pas que j'étais en retard, je ne me suis pas aperçue qu'il fallait que mon abonnement arrivait. On ne m'a pas prévenu, la bibliothécaire ne m'a pas dit que... Comme ça faisait longtemps que je n'étais pas venue à la bibliothèque, je pensais que ça se refaisait de manière automatique, notamment à Limoges. On a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah bon, mais comme c'est gratuit, est-ce qu'il faut se réinscrire à la bibliothèque ?» Et c'est effectivement une question qu'on est en droit de se poser. Donc, parmi les propositions des gens qui ont participé au focus group, ils disaient « Il faudrait qu'on puisse, en un clic sur le site internet de la bibliothèque, se réinscrire et pas être obligé de revenir à la bibliothèque, de refournir... » une attestation, un justificatif de domicile, etc. etc. Ils étaient vraiment... Enfin, ils prenaient tous la simplification des mesures de réinscription. Et donc, en fait, on a 19,2% de ce qu'on a appelé l'effet bibliothèque. Donc on parlait de raisons exogènes tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur les raisons endogènes. Donc, ce sur quoi la bibliothèque a prise et qui explique... le décrochage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle n'est jamais ouverte, il n'y a pas assez de livres, je ne trouve pas ce que je viens chercher, les durées de presse sont trop courtes, les équipes ne sont pas sympas. C'est arrivé qu'on nous ait dit ça. le classement, je ne m'y retrouve pas dans le classement, je m'y perds, il y a beaucoup trop de livres, c'est trop impressionnant. Toutes ces questions-là qui, pour le coup, sont des raisons... des éléments sur lesquels les équipes de la bibliothèque peuvent travailler. On a aussi des gens qui nous ont parlé des pénalités de retard et des frais d'inscription. Alors, encore une fois, pas à Limoges, puisque tout est gratuit, mais à Saint-Étienne, les raisons économiques ont aussi été invoquées. J'ai notamment le souvenir d'une mère de famille qui disait « Moi, je ne me suis pas inscrite en tant que mère de famille à la bibliothèque parce que c'est 17 ou 22 euros pour moi, alors que c'est gratuit pour mes enfants. » Donc, du coup, mes enfants sont inscrits et quand j'ai besoin, j'utilise leur carte. Donc là aussi, on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'usage plus collectif de la carte de bibliothèque qui est du coup pas pris en compte, en tout cas pas de manière très fine, par les SIGB sur lesquels c'est un peu compliqué d'avoir prise. Je vous montre aussi les motivations de la première inscription pour là aussi qu'on est toujours en tête... cette idée de est-ce que les attentes déçues sont les raisons pour lesquelles les gens décrochent. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on s'inscrit à la bibliothèque parce que c'est gratuit. Donc c'est rigolo parce que c'est gratuit ou c'est un prix raisonnable. Alors qu'à Saint-Étienne, c'est pas gratuit, c'est une réponse qui est beaucoup revenue à Saint-Étienne. Après, bien sûr, c'est pour les services et pour les. Dans les services, il y avait tout. Il y avait les collections, les animations, enfin vraiment, il y avait. enfin les animations récurrentes, j'entends. Donc les heures du conte, toutes ces choses-là. Parce que ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça aussi, la mission de la bibliothèque en tant que lieu du lien. Et enfin, pour les programmations, programmations culturelles, rencontres d'auteurs, expositions, etc. Donc juste par rapport à la catégorie dont je vous parlais à l'instant, sur on s'inscrit à la bibliothèque pour les services, si on essaye de faire un petit focus sur les collections en regardant un petit peu plus précisément les réponses qui ont été fournies dans les questionnaires, on a 38% des gens qui viennent pour les collections, donc vraiment les documents, qu'est-ce qu'on trouve à la bibliothèque et qu'on peut ramener chez soi, et 51% à Saint-Étienne. Et quand on regarde la manière dont sont organisés les deux équipements et les deux réseaux de lecture, moi je me dis que ça témoigne peut-être aussi d'une conception de la, enfin, d'une promotion et d'une conception de la lecture qui n'est pas tout à fait la même à Limoges et à Saint-Étienne. À Limoges, on a vraiment fait l'effort de passer à des services numériques, à des services à distance, à des choses qui sont accessibles vraiment. Pas, enfin, on n'est pas obligé finalement d'être adhérent à la bibliothèque pour avoir accès à toutes ces choses-là. Alors qu'à Saint-Étienne, on est plus dans une conception que je dirais traditionnelle de la bibliothèque. C'est peut-être un petit peu enfermant. Mais en tout cas, voilà, on vient à la bibliothèque pour emprunter. À Limoges, non, on vient à la bibliothèque pour faire plein d'autres, enfin, plus facilement plein d'autres choses. Voilà, les questionnaires qu'on a... Vous voyez quelque chose ? Oui. Les questionnaires qu'on a faits, on avait aussi posé cette question, qu'attendez-vous de la bibliothèque ? Pour essayer d'avoir... qu'attendez-vous de la bibliothèque et qu'est-ce que la bibliothèque pourrait, devrait faire pour maintenir l'intérêt que vous lui portez ou pour renouer avec vous ? Et donc, on a essayé de schématiser un certain nombre d'éléments dans ce petit schéma qui est voilà, un petit peu le bazar, quand même. Mais on voit bien quand même qu'il y a plusieurs missions de la bibliothèque qui sont identifiées là-dessus. Il y a effectivement la question des ressources, des collections, sachant qu'on a des gens aussi qui nous ont dit, et dans les questionnaires, et dans les focus group, je viens aussi à la bibliothèque pour trouver des choses, pour faire le lien avec ce qu'on disait ce matin avec Mathilde. Je viens à la bibliothèque pour trouver des choses que moi, j'irai jamais acheter. J'irai jamais acheter Closer. Donc, je suis contente de le trouver à la bibliothèque. J'irai jamais acheter de la littérature sentimentale. Donc, je suis contente de la trouver à la bibliothèque municipale. Donc, voilà, enfin, c'est... Il y a les questions d'accueil, il y a les questions d'espace aussi. Je viens à la bibliothèque juste pour trouver un espace où je peux m'asseoir, je peux lire un journal, je peux écouter de la musique, je peux juste attendre que mon fils il ait fini sa leçon de guitare et puis rentrer chez moi. Et c'est juste un lieu public, donc un lieu public gratuit et accessible à tous. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est ressorti. Il y a aussi des gens qui nous ont dit rien. Donc c'est... C'était un petit peu délicat à traiter, les gens, quand on posait la question aux gens en disant « qu'est-ce que vous attendez de la bibliothèque ?» et qu'ils nous répondent « rien », c'est un petit peu déstabilisant. Alors en essayant de creuser, c'est des riens qui ne sont pas si négatifs que ça. Souvent, c'est « rien que je n'y trouve déjà », donc finalement tout va bien. Rien, parce que de toute manière, je n'ai pas plus de temps à y consacrer qu'actuellement, et du coup, il y a déjà tellement que je ne profite pas de tout, donc ce n'est pas la peine de développer plus. Donc c'est pas que des choses négatives, mais il y a aussi des gens qui nous ont dit non, rien, ça me fait pas rêver la bibliothèque, enfin, je n'ai rien à en attendre. Voilà, donc ce que ce travail, ces enquêtes de terrain ont permis de mettre à jour, c'est quand même que tous les décrocheurs ne sont pas perdus. Ça a été une découverte et un soulagement pour les équipes avec qui on a travaillé. Puisque, comme je vous le disais, dans l'analyse qu'on a, les questionnaires qu'on a envoyés, on a travaillé à partir des données des SIGB. Et donc étaient comptabilisés les gens décrocheurs, ceux qui n'avaient pas utilisé leur carte de bibliothèque dans les 12 ou derniers 18 mois. Et puis finalement, on a fait ça donc pour les décrocheurs et pour les nouveaux inscrits. Et on s'est aperçu que parmi les nouveaux inscrits, il y avait beaucoup de décrocheurs repentis. C'est-à-dire des gens qui avaient été inscrits il y a 7 ou 8 ans dans la bibliothèque, à la bibliothèque, qu'on avait nettoyé la base de la bibliothèque, que du coup, ils avaient complètement disparu de cette base-là et qu'ils se réinscrivaient à la bibliothèque. Et donc, c'est des gens qui ont été très surpris de recevoir le questionnaire en disant « Ah, mais en fait, moi, je connais déjà la bibliothèque. C'est juste que j'avais déménagé, ou mes enfants étaient petits, j'ai pas eu le temps de me réinscrire, etc. Mais non, je suis pas nouvelle inscrite à la bibliothèque. Donc c'était quand même intéressant de voir qu'il y a une part assez importante des nouveaux inscrits qui sont en fait des décrocheurs repentis. Donc là aussi, ça validerait l'idée qu'il y ait une espèce de cycle où à un moment, on a de l'intérêt pour la bibliothèque, l'intérêt décroche un peu, puis ça revient, ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est pas complètement perdu. Et ensuite, l'autre élément qui a rassuré aussi un petit peu les équipes, c'est que finalement, quand on regarde le tableau que je vous montrais tout à l'heure avec les raisons du décrochage, il n'y a que, je mets des gros guillemets, il n'y a que 19% des gens qui reprochent réellement des choses à la bibliothèque. Puisque les raisons exogènes, les concurrences, l'inadvertance, c'est des choses sur lesquelles la bibliothèque a peu ou pas de prise, sur lesquelles elle peut ou pas tellement faire des choses. Mais les choses sur lesquelles elle peut vraiment faire, proposer des solutions, il n'y a que 19% des gens que ça concerne. Donc des gens qui sont réellement, réellement déçus. Donc, on a aussi posé la question aux gens qu'on a rencontrés en focus group de qu'est-ce qu'on essaye de faire pour, de nouveau, pour vous raccrocher à la bibliothèque. Donc, les propositions des usagers, on les a articulées autour de trois verbes. Le premier, c'est, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est la question de l'accès. Comment accéder ? Donc en termes d'horaire, on a plein de gens qui nous ont dit « Moi, le seul jour où je suis disponible, c'est le dimanche. Pourquoi la bibliothèque, elle n'est pas ouverte le dimanche ? Je veux aller m'acheter des chaussures le dimanche, c'est possible. Je veux aller emprunter un livre à la bibliothèque, c'est pas possible. » Bon, très bien. La question des horaires et de l'ouverture le dimanche, mais aussi de l'ouverture en soirée. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi. Donc, et Limoges et Saint-Étienne sont des villes universitaires où les bibliothèques universitaires ne sont pas ouvertes très très tard en soirée. Donc ils avaient aussi les quelques décrocheurs qu'on a pu rencontrer et qui étaient étudiants, nous ont dit aussi, nous on a besoin de bibliothèques ouvertes plus tard et pourquoi pas la bibliothèque publique, c'est plus sympa que la bibliothèque universitaire. Bon. Donc il y avait la question des horaires, la question de, comme je vous le disais aussi, de l'implantation et de l'inscription de la bibliothèque dans son environnement. Est-ce qu'elle est facile d'accès? Est-ce qu'il y a des bus? Est-ce qu'il y a des trams? Est-ce qu'il y a des bus et des trams, je crois, il n'y a que des bus et des trams à Limoges et à Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a des facilités pour y accéder? Alors, on a même eu des choses assez rigolotes, puisque à Limoges, la bibliothèque du centre-ville, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont déjà allés, mais la belle BMW verte, elle est construite juste sur un parking Vinci, donc un parking payant. Et donc, on a des décrocheurs et des nouveaux inscrits qui nous ont dit que ça serait bien si on pouvait négocier au moment de l'inscription à la bibliothèque une espèce de carte qui nous permettrait d'avoir une ou deux heures de parking gratuit chez Vinci. Comme ça, on badgerait la carte de la bibliothèque, on irait chercher ses livres et on badgerait en ressortant. Enfin voilà, il y avait des propositions comme ça un peu rigolotes. Donc ça, c'est vraiment la question de l'accès. Et après, la question de l'accès. Ensuite, on a la question de l'accueil. Donc, on a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'aménagement du lieu. La question de la convivialité. On veut des endroits où s'asseoir, où passer du temps, sans qu'on vienne nous dire « hop, il faut dégager, il y a quelque chose qui va se passer ici ». Vraiment des lieux où on peut se poser pour que la bibliothèque soit vraiment inscrite dans un temps où on peut juste séjourner et pas être obligé de venir d'emprunter et de faire du self-service, mais vraiment où on peut s'asseoir et passer du temps à la bibliothèque. Il y a des gens aussi qui nous ont dit sur la question de l'accueil qu'il fallait développer les collections. Et alors c'est rigolo parce que, aussi bien à Limoges qu'à Saint-Étienne, les collections c'est quand même quelque chose d'assez important et d'assez développé. On en parlait à midi avec mes collègues, le budget d'acquisition de la ville de Limoges, c'est un budget qui ferait envie à pas mal de personnes, je crois. Je crois qu'ils sont à 4 euros par an et par habitant, donc c'est pas mal. Et en même temps, quand on discute avec les usagers qui disent « Ah oui, il faudrait plus de DVD, plus de livres, plus de BD, plus de CD », qu'on leur dit « plus, mais plus comment ?», rapidement, ils se disent « Ah ben non, oui, en fait, non, c'est pas plus qu'il faudrait. Peut-être plus d'exemplaires. » Donc là, du coup, il y a une conscience que c'est finalement, que c'est une fuite en avant et qu'on ne peut pas avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et qu'en plus de ça, la bibliothèque, elle n'est pas forcément là pour avoir tout. Donc, c'était rigolo parce que dans les focus groups, les gens se sont mis face à leurs contradictions entre eux, c'est-à-dire un qui disait « Ah oui, il faudrait plus de, oui, mais plus comment ?» Enfin voilà, c'était vraiment des discussions qui s'organisaient entre eux, donc c'était plutôt intéressant. Toujours sur la question de l'accueil, on nous a signalé qu'un accueil personnalisé avec un personnel identifiable, disponible, souriant, c'était quelque chose aussi qui était recherché, avec du conseil, là aussi, comme je vous le disais, pour ne pas être qu'un numéro. Et là aussi, c'était intéressant parce qu'on avait vraiment les deux discours dans le groupe, dans les groupes qu'on a menés. On avait et des gens qui disaient « Non, moi, quand je vais à la bibliothèque, je vais qu'on me foute la paix. Je suis là juste pour passer un moment de break. Et j'ai pas envie d'avoir quelqu'un sur le dos qui me dise « Vous n'avez pas lu ?» Pas du tout. Je suis là juste pour être tranquille et pour aller au rayon littérature érotique, si j'ai envie, sans que j'ai un bibliothécaire sur le dos. » Ou au contraire, des gens qui nous disaient « Ah ben non, moi, quand je suis là, j'ai... Voilà, je viens là, pas comme quand je suis à la FNAC, j'ai envie de discuter avec quelqu'un qui n'a pas forcément intérêt à me vendre quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de prendre le temps de discuter. » Donc on est vraiment dans ces deux envies, dans ces deux attentes qui sont, enfin, je ne sais pas si on peut dire complémentaires, mais en tout cas, qui cohabitent dans les attentes des gens. C'était d'ailleurs intéressant de remarquer que les nouveaux inscrits, dans les focus groups avec les nouveaux inscrits, on était plus dans une recherche d'autonomie, j'ai envie de me débrouiller tout seul, j'ai envie d'apprivoiser la bibliothèque, de me faire un petit peu mon idée de comment elle marche, de où sont les collections qui m'intéressent, etc. Et les décrocheurs, ils étaient plutôt dans « Non, moi je ne veux pas être un numéro et je veux pas être, je veux qu'on vienne, voilà, je veux une attention personnelle des gens qui viennent me parler et me conseiller des choses à moi, rien qu'à moi. » Et pour finir sur la dimension accueil, on a eu des gens aussi qui nous ont dit qu'ils attendaient d'être surpris par la bibliothèque. Bibliothèque, surprends-moi. Alors c'était un peu étonnant comme proposition, mais ce qu'il y avait derrière, c'était de dire j'ai envie que la bibliothèque, une fois que j'ai bien compris son fonctionnement quotidien, j'ai envie aussi qu'elle sorte de son cadre ordinaire et qu'elle me surprenne et qu'elle soit là où je ne l'attends pas. Et donc, quand on a demandé aux personnes qui étaient dans les focus groups de nous donner des exemples, on a des gens qui nous ont dit « on voudrait bien être l'invité de la bibliothèque ». Une fois, comme ça, pouvoir visiter la bibliothèque dans des conditions tout à fait exceptionnelles. La nuit, on voudrait pouvoir dormir à la bibliothèque, on voudrait... Des choses là aussi un petit peu étonnantes, mais qui montrent bien l'envie d'inscrire la bibliothèque dans quelque chose aussi qui ne soit pas routinier, qui soit aussi de l'ordre de l'exceptionnel. Et voilà, c'était autant de propositions, autant d'idées qui sont ressorties des focus groups et qui étaient intéressants et qui ont apparemment donné des idées aux villes de Limoges et de Saint-Étienne. Enfin, le troisième verbe autour duquel on a organisé les propositions d'usagers, c'est le verbe communiquer. C'était aussi pour lutter contre tout ce qu'on a appelé l'inadvertance. C'est-à-dire quel système on peut mettre en place pour relancer les usagers et leur dire « Hep, attention, dans 3 semaines, votre abonnement, votre adhésion arrive à échéance. Juste pour que vous l'oubliez pas, on ne va pas vous mettre d'amende ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours venir emprunter, mais juste un petit mail, une petite lumière qui s'allume quelque part pour dire « Attention, là, votre abonnement arrive à son terme. » Donc, il y avait cet aspect-là. Il y avait aussi faire connaître les services de la bibliothèque. Parce que dans le questionnaire, quand on leur demandait « Qu'est-ce que vous attendez de la bibliothèque ?», on s'est aperçu aussi qu'ils attendaient plein de choses qui existaient déjà, mais dont les gens n'avaient pas connaissance. J'aimerais bien pouvoir réserver des livres à la bibliothèque. Mais c'est possible. Mais quand on leur disait « mais c'est possible », ils disaient « ah bon ? Mais on ne me l'a jamais dit, on ne m'a jamais montré, je ne le sais pas, comment ça marche, comment c'est possible ?» Donc il y a aussi un travail qui est sans cesse à remettre sur l'ouvrage, qui n'est jamais acquis, de « voilà, on présente de nouveau les services de la bibliothèque et vraiment, on partage ça avec l'ensemble des usagers. » Et puis il y a aussi peut-être quelque chose qui, là, est une mission plutôt pour les professionnels de la bibliothèque, qui est de dire... je me dépêche. qui est de dire qu'il faut peut-être aussi revoir les données d'évaluation. Puisque jusqu'à présent, pour évaluer l'action des bibliothèques, on est beaucoup sur le nombre d'inscrits, le nombre de prêts, le nombre de documents, etc. Et que finalement, tous les usages de fréquentants, de séjourneurs, on ne les quantifie pas. Alors que ce sont des pratiques de plus en plus récurrentes dans les bibliothèques, dans les établissements, et que c'est dommage de ne pas en rendre compte, parce que c'est un vrai service que rend la bibliothèque, et que les collectivités, enfin les DAC, les élus, etc., c'est autant d'éléments dont ils peuvent avoir besoin aussi pour défendre une politique culturelle. Et pour ça, j'enfile ma casquette de directrice adjointe de la bibliothèque départementale du Val-d'Oise. On a mené cette année-là, en janvier 2015, une campagne de comptage de la fréquentation dans les bibliothèques du département. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne franchissait le seuil d'une des bibliothèques du département, on la comptait. On a fait ça pendant une semaine et ensuite on a fait des calculs pour extrapoler. Et on s'est aperçu qu'il y avait, en 2013, il y a un petit peu plus de 2 300 000 personnes qui ont franchi les portes des bibliothèques du département. Ce qui est quand même un score tout à fait honorable. On en est plutôt content. Mais c'est un chiffre qu'il est intéressant de mettre en regard du nombre d'inscrits, parce qu'on est loin de 2 millions d'inscrits dans les bibliothèques du Val-d'Oise. Il y a 2 millions d'habitants à peu près dans le département du Val-d'Oise. Donc là, on est à 2 300 000 fréquentants les bibliothèques. Donc ça veut dire qu'il y a plus... Enfin, c'est comme si les gens ils allaient plus d'une fois par an à la bibliothèque. Donc c'est un chiffre, ça c'est quelque chose qui peut parler aux élus et qui peut vraiment permettre, là encore, de repositionner la bibliothèque dans son environnement et dans ses missions autrement qu'avec le prêt de documents. Et voilà, et ça paraissait intéressant en tout cas de repenser l'évaluation dans les bibliothèques. Voilà, j'ai terminé.
Oui, bonjour. En fait, les données sur lesquelles vous êtes basé, c'est les données du SLL, et donc qui partent du principe qu'un inscrit est un inscrit emprunteur. Moi, en fait, je me demande, parmi les décrocheurs que vous avez rencontrés, s'il n'y avait pas des gens qui avaient cessé de s'inscrire simplement parce qu'ils n'empruntent plus, mais ça n'empêche pas qu'ils continuent de fréquenter.
Alors, on leur a posé la question, et dans le questionnaire, et au moment où on les a rencontrés. Les gens qui ne sont plus inscrits, en tout cas sur le mode déclaratif, c'est-à-dire ce qu'ils en disent, ils disent que non, ils ne fréquentent plus la bibliothèque quand ils ne sont pas inscrits. Et quand on en a rencontré quelques-uns, donc au moment des focus group, on a une personne qui nous a dit « Moi, je ne me suis même pas aperçue que j'étais plus inscrit, que j'étais plus en règle, nous a-t-il dit, par rapport à la bibliothèque, parce qu'en fait, il n'utilise que les services à distance et qu'une fois qu'il a son numéro d'abonné, il a son numéro d'abonné et il n'y a pas un couperet qui tombe en disant « Paf, vous n'êtes plus à jour ». Voilà, donc lui continuait allègrement et clandestinement à être un passager clandestin de la bibliothèque parce qu'il n'avait pas renouvelé son adhésion, mais voilà, continuait à complètement emprunter utiliser les services de la bibliothèque. Donc effectivement, il doit y avoir une frange de décrocheurs qui ne renouvellent pas leur adhésion, mais qui continuent à utiliser les services de la bibliothèque, mais on a, enfin, en tout cas, dans les gens qu'on a rencontrés, c'était pas la majorité. Mais bien sûr qu'il doit y en exister. Et puis c'est pareil, le questionnaire, il est basé sur... il n'y a que les gens qui ont bien voulu, qui ont répondu au questionnaire. Donc là aussi, c'est autant de biais méthodologiques qui font que les personnes qui n'ont vraiment plus rien à faire de la bibliothèque, qui sont vraiment... dont l'intérêt pour la bibliothèque est vraiment très très bas, ceux-là, on les a pas entendus, ils n'ont pas eu la parole dans ce travail-là. Parce qu'ils ont choisi de ne pas répondre au questionnaire et ils ont choisi de ne pas venir au focus group. Donc voilà. Mais pour répondre précisément à votre question, je pense qu'effectivement, il y a une frange de personnes qui ne sont plus inscrites à la bibliothèque et qui continuent à en utiliser les services, en se déclarant passager clandestin ou pas, mais il y a peut-être effectivement une frange de faux décrocheurs.
Oui, parce qu'en fait, si on continue sur cette idée-là, en fait, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a les inscrits emprunteurs qui sont les inscrits officiels. Après, il doit y avoir des inscrits non-emprunteurs. Et il y a probablement des non-inscrits qui fréquentent largement. Et bon, dans certaines bibliothèques, c'est un pourcentage qui est très, très fort. Donc, moi, la question que je me pose globalement, c'est ce que là on appelle des décrocheurs, par rapport au pourcentage de gens qui utilisent la bibliothèque sans s'inscrire, finalement, est-ce qu'il faut se focaliser vraiment là-dessus, quoi ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt essayer d'explorer tous ces gens qui viennent à la bibliothèque sans s'inscrire, qui utilisent du coup largement les services, et voilà, enfin, bon.
Il y a sans doute matière effectivement pour d'autres études sur ce sujet-là. Je crois qu'à Bordeaux, hein, si mes sources d'informations sont les bonnes, je crois qu'il y a une étude qui est en cours sur les séjourneurs dans l'espace presse, je crois, de la bibliothèque, qui ne sont pas forcément des gens inscrits, et voilà, aussi pour voir qui sont ces gens et pourquoi est-ce que la carte ne donne plus suffisamment de privilèges ou ne répond plus aux attentes des gens, donc ils n'en ont pas besoin, et tant pis, et tant mieux, et voilà, c'est pas grave. Et peut-être que, en tout cas, moi, la commande que j'avais par rapport à ce travail-là, c'était vraiment ces gens qui ne se réinscrivent pas, qui sont-ils et pourquoi est-ce qu'ils ne se réinscrivent pas ? Donc après, il y en a sans doute qui ne se réinscrivent pas, mais qui continuent d'utiliser les services de la bibliothèque, et c'est tant mieux. Et voilà, mais ça vaudrait la peine effectivement de creuser sans doute un peu plus avant sur ces questions-là.
Je méfie toujours un petit peu des statistiques. J'aurais aimé savoir, bon, c'est vrai qu'elles veulent dire tout et parfois n'importe quoi. Votre propos est tout à fait intéressant et je pense que justifié. Simplement, j'aimerais connaître les critères sur lesquels ont été établis les inscrits à la bibliothèque. Est-ce qu'il y a été fait des nettoyages fréquents des fichiers sur les mêmes critères à Limoges et à Saint-Étienne, ou est-ce des voilà, parce que ça change beaucoup les données.
Alors à Limoges, on a effectivement ça change beaucoup la donne, comme vous dites, et aussi bien à Limoges qu'à Saint-Étienne, cette enquête, ça a été une enquête, j'allais dire d'opportunité, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de le faire, donc on l'a fait. Et qu'effectivement, je crois qu'à Limoges, la base n'avait pas été nettoyée depuis 5 ans. Et à Limoges, la base n'avait pas été nettoyée depuis 5 ans. Et à Saint-Étienne, je crois qu'elle avait été nettoyée 3 ans auparavant. Donc voilà.
Mais ce n'est pas une trop grande différence.
Non, ça ne fait pas une trop grande différence.
Je sais que c'est dans la région parisienne, si quelqu'un s'enorgueillissait d'avoir 47% de la population inscrite, mm-hmm. mais comme ça n'avait pas été nettoyé depuis 20 ans, ouais. Évidemment, c'est très facile d'avoir 47% de la population inscrite, surtout quand c'est gratuit.
Alors, à Limoges, à Limoges notamment, ça s'expliquait le nettoyage de la base 5 ans auparavant parce qu'ils avaient changé de logiciel. Ils étaient passés sous COA et du coup, ça avait été l'occasion de nettoyer la base. Ah, il y a un monsieur là-haut. Il y a un monsieur qui a une question tout en haut, en fait.
Une petite remarque, tout d'abord, c'est sur la signification de décrocheur et le rapport que vous avez fait avec le monde scolaire. Alors, je sais, il me semble que vous n'avez pas fait mention, mais le premier terme qui vient à l'esprit quand on parle de décrocheur dans le monde scolaire, c'est échec. Ensuite, vous avez parlé des repentis, décrocheurs repentis qui se réinscrivent. Et la question qui vient, c'est... comment vous les avez appelés quand vous les avez rencontrés en présentiel, si vous les avez désignés comme étant des décrocheurs ou pas.
Alors.
Comment ils ont réagi?
Le questionnaire qu'on leur a envoyé, effectivement, s'intitulait questionnaire, et pas questionnaire pour les décrocheurs ou questionnaire pour les primo-arrivants. Ça s'appelait juste questionnaire. Après, effectivement, dans la manière dont on a mené ces entretiens de groupe, j'ai expliqué quelle était la démarche de l'enquête et donc j'ai expliqué qu'effectivement, moi, je travaillais sur le phénomène de non-réinscription, qu'on appelait aussi décrochage. Donc je les ai pas traités de décrocheurs, mais je leur ai dit effectivement que c'était le décrochage de la bibliothèque qui était le sujet de l'étude. Après, est-ce qu'ils se sont pour autant sentis stigmatisés et pointés du doigt comme étant les mauvais élèves et les élèves en échec de la bibliothèque, Ils n'ont pas eu l'air complètement traumatisés au moment des entretiens. Après, mais cela dit, il y a quand même... et alors peut-être que ça vient effectivement du fait que je les ai traités de décrocheurs, mais il y avait aussi un petit peu de ce... ah mais vous savez, on aime bien quand même la bibliothèque, même si on n'y vient plus, c'est quand même un bel équipement et c'est bien ce que fait la bibliothèque. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup, beaucoup ressorti dans les 723 questionnaires qu'on a traités. Des gens qui nous disaient, oui, je viens plus à la bibliothèque, mais si elle n'existait pas, faudrait l'inventer. C'est super, la bibliothèque. C'est merveilleux. Et surtout, surtout, ne fermez pas la bibliothèque à cause de moi. Enfin, voilà, il y avait aussi un petit peu ce truc-là de se rendre compte qu'effectivement, les gens qui décrochaient de la bibliothèque, ils avaient peut-être un peu conscience oh, c'est pas bien, je ne me suis pas réinscrit à la bibliothèque. Et peut-être même que je ne me suis pas réinscrit, mais que j'utilise encore les services. Oh, je me suis fait gauler, quoi. Il y avait peut-être un petit peu de ça aussi dans l'approche. Après, quand on les a rencontrés dans les focus group, c'est un exercice qui est très, très intéressant. Les focus group, je vous invite vraiment à recruter des stagiaires pour mener vos enquêtes de public et à organiser des focus group, parce que c'est vraiment un exercice intéressant. Et quand c'est fait dans un cadre un petit peu convivial avec du thé, des petits gâteaux, et puis que les gens parlent entre eux, moi, je ne les ai pas sentis, encore une fois... ils se sont pas sentis pris la main dans le sac et puis fautifs et tout ça. Ils ont été assez francs, assez honnêtes, et ils ont dit des choses qui n'étaient pas forcément agréables pour les gens qui étaient issus de la bibliothèque, puisque sur les focus groupes que j'ai menés, ceux qui ont eu lieu à Saint-Étienne, j'ai été accompagnée au moment de l'organisation de ces focus groupes par la directrice adjointe de la bibliothèque, qui prenait généralement pas la parole, mais qui était présente dans la salle. Et elle a entendu des choses par rapport à ses équipes qui n'étaient pas forcément toujours agréables à entendre. À Limoges, j'étais toute seule avec eux. Et le directeur de la bibliothèque est venu nous rejoindre qu'à la fin du temps pour boire un coup avec nous, en fait. Et les gens ont vraiment... et puis moi, je leur disais, je ne suis pas de la bibliothèque, donc vous pouvez me dire les choses. Les focus groups, ça va être anonymé, donc je ne vais pas vous demander votre carte d'identité, votre carte d'adhérent. Après, on ne va pas piéger vos cartes pour que plus jamais vous remettiez les pieds à la bibliothèque. Donc, du coup, ils ont vraiment été... moi, j'ai trouvé que la parole était assez libre, en fait, dans ces focus groups-là. Et je n'ai pas senti qu'ils se sentaient stigmatisés ou montrés du doigt comme étant les mauvais usagers de la bibliothèque. Mais peut-être qu'effectivement, ce terme de décrocheur est... vraiment décidément pas adéquate.
Bien, merci beaucoup Céline. En tout cas, ce travail qui pourrait en amener d'autres est accessible et disponible en ligne gratuitement dans la bibliothèque numérique de l'école.